Oui, bonjour à tous les élèves de 3e. Eh bien, vu les circonstances exceptionnelles, je fais une activité elle aussi exceptionnelle. Je fais un petit bilan oral de ce qui a été dit lors de la dernière séance en classe entière et réelle, si j'ose dire, à propos de la guerre froide. Cela permettra aux absents de comprendre peut-être un petit peu mieux ce que j'ai déposé et sur l'ENT et sur mon site internet. Et puis, ben, pour vos révisions de fin d'année, après tout, un petit bilan oral peut toujours être réécouté si vous avez téléchargé ce fichier. Donc, ce que j'avais expliqué, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la paix était revenue, la fondation de l'ONU en 45 laissait espérer finalement une nouvelle ère de paix, de tensions qui disparaissaient. Bah, il n'en est rien. Il y a des tensions qui sont nées très rapidement entre les deux grands vainqueurs de la guerre, à savoir les États-Unis et l'URSS, qui, après avoir lutté ensemble contre leur ennemi commun, le nazisme et Hitler, se fait une nouvelle petite guerre, une rivalité entre ces deux pays. Il faut bien avoir à l'esprit que dans l'immédiate après-guerre, ces deux pays qui sont les vainqueurs font figure de libérateurs et donc sont quelque part des héros pour les territoires européens qui ont été occupés par le nazisme. Hein, aussi bien les Américains pour les Français en particulier que les Soviétiques, hein, l'armée rouge pour l'Europe de l'Est. Hein, ce sont tous ceux, Américains et Soviétiques, ceux qui ont débarrassé l'Europe du nazisme. Hein. Et justement, dans l'immédiate après-guerre, l'URSS prend peu à peu le contrôle de l'Europe de l'Est. Hein, le fur et à mesure, ces pays qui ont été libérés vont être dominés par l'influence soviétique communiste de Moscou. Hein, et progressivement, Joseph Staline demande à plusieurs pays de l'Europe de l'Est de se joindre à lui et de former une sorte d'alliance. Et bien évidemment, de l'autre côté, le président des États-Unis, qui s'appelle désormais Harry Truman, décide d'aider militairement et économiquement les pays européens de l'Ouest. Hein, non seulement par le plan Marshall, c'est-à-dire que finalement il offre de l'argent aux pays pour aider à la reconstruction d'après-guerre, et puis au sein de l'OTAN, il l'invite à bénéficier d'un soutien, comment dirais-je, militaire, une protection militaire américaine au sein de l'OTAN, donc l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a été signée en 1949. Bien évidemment, l'URSS va accuser les États-Unis de vouloir dominer le monde et réciproquement. Ce qui fait, si vous voulez, que deux alliances qu'on appelle des blocs s'opposent rapidement, des blocs qui sont très organisés. Les États-Unis ont donc pris la tête du bloc de l'Ouest, qui comprend donc les États de l'Ouest de l'Europe, qui ont accepté et le plan Marshall et l'OTAN. Et puis de l'autre côté, l'URSS prend la direction du bloc de l'Est, qui comprend les pays soviétiques, communistes, qui sont soudés par ce qu'on a appelé le pacte de Varsovie. C'est une alliance militaire qui a été signée en 1955. Et parmi les poids lourds des alliés chez les soviétiques, on compte la Chine communiste, d'un dictateur très important qui s'est appelé Mao Zedong. Hein. Bref, ce que j'ai essayé d'expliquer à vos camarades en classe la dernière fois, il s'agit avant tout peut-être d'une guerre idéologique, hein, sachant que deux modèles s'opposent entre ces deux blocs, qui sont séparés par ce qu'on appelle un rideau de fer. Je vous invite à aller voir les cartes que j'ai mises en ligne sur le diaporama qui ont été projetées en cours, ou alors vous les verrez à page 132 de votre manuel scolaire. D'un côté, dans le bloc de l'Ouest, nous avons une démocratie libérale, capitaliste, hein, qui repose sur le modèle américain, et de l'autre côté, évidemment, une dictature et une idéologie communiste, qui s'impose en URSS et chez ses pays alliés. Et donc les deux puissances vont mener une guerre idéologique de propagande assez importante qui utilise tous les moyens de diffusion de masse, la presse écrite, la télévision, le cinéma. D'une façon humoristique, je vous avais parlé un petit peu de Rocky IV à une classe, je ne sais plus laquelle d'ailleurs. Et puis en 3D, Hambelin avait rappelé aussi l'importance, elle avait raison, de la course vers l'espace. Hein. En 1961, l'URSS remporte la première manche en étant capable d'envoyer le premier homme dans l'espace, Youri Gagarine. 8 ans plus tard, en juillet 1969, les Américains remportent la deuxième manche en envoyant Neil Armstrong sur la Lune. Ce qui est vraiment important de comprendre dans la guerre froide, c'est que il ne s'agit pas d'une guerre ordinaire. Hein, le monde, si vous voulez, connaît plusieurs crises qui sont graves, mais qui ne débouchent pas sur un conflit direct qui oppose donc directement les deux grands leaders qu'on appelle les grands avec un G majuscule, puisque chacun, l'un et l'autre, possède la bombe atomique. Et ça constitue une menace redoutable, une représaille importante. Hein, c'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. La dissuasion nucléaire consiste, pour un pays qui possède la bombe nucléaire, de dire si un pays attaque mon territoire et ma population, en punition, je lui enverrai une bombe nucléaire. Donc c'est assez dissuasif, évidemment. Il existe parfois des conflits armés, donc des guerres qui débouchent de ces conflits entre l'URSS et les États-Unis, mais les combats n'ont jamais lieu, ni même les crises d'ailleurs, sur le territoire de l'URSS ni sur le territoire américain. En classe, j'avais pris l'exemple. À l'oral, on n'a rien écrit là-dessus, mais juste pour expliquer, entre 1950 et 1953, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre de Corée. C'est-à-dire que les Américains et les Soviétiques se sont affrontés indirectement en Corée. D'un côté, la Corée du Nord était soutenue par l'URSS de Staline, qui fournissait de l'argent, des armes, etc. Et puis, de l'autre côté, la Corée du Sud était soutenue, elle, par les États-Unis. Et le conflit est d'ailleurs resté assez stérile, puisque, outre quelques millions de morts, la frontière, 3 ans après le conflit, est restée à peu près la même. Il n'y a pas vraiment de vainqueur dans la guerre de Corée, si bien d'ailleurs que la frontière, je crois, n'a pas vraiment évolué jusqu'à aujourd'hui en ce qui concerne la frontière qui sépare la Corée du Nord de la Corée du Sud. Voilà. En ce qui concerne l'activité qui est à faire, j'ai tout mis sur l'ENT et puis sur mon site internet. L'activité qui concerne tant Berlin et l'Allemagne et puis celle qui concerne Cuba ont pour objectif, après cette présentation très générale de la guerre froide qu'on a fait en classe, de comprendre avec des exemples précis comment une simple crise peut être un symbole, un enjeu de la guerre froide, c'est-à-dire cet affrontement à distance qui sépare les deux grands, les deux blocs de l'Ouest et de l'Est, qui sont séparés une fois encore par le rideau de fer. Donc, chers élèves de 3e, si jamais certains et certaines parmi vous, vous avez des questions à poser, vous savez où me joindre, soit sur le NT, soit sinon vous pouvez m'écrire par mail franck.gavard-perret. @AC pour Académie, AC-grenoble.fr. Voilà, à très bientôt!